Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez ? Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de votre présence. Je vois qu'il y a des cheveux blancs, mais je vois aussi qu'il y a des jeunes. Voilà. Et c'est effectivement très important pour moi de pouvoir parler. C'est pas bien.
Si, c'est bien, mais voilà. Voilà, c'est bien.
C'est mieux, d'accord. Voilà. Le nucléaire, c'est 4% de l'énergie consommée dans le monde. Et ça représente moins de 10% de l'électricité consommée dans le monde. Alors, c'est quoi cette histoire de nucléaire durable ? En quoi est-ce quelque chose d'irremplaçable ? Ben, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Je voudrais que vous ressortiez de là avec cette conviction qu'effectivement, sans le nucléaire, on ne s'en sortira pas. Et s'il n'est pas durable, on ne s'en sortira pas du tout. Alors, juste en remarque préliminaire, parce que certains d'entre vous me connaissent un peu, d'autres pas du tout, j'imagine. Effectivement, je suis physicien nucléaire, j'ai un doctorat d'État, j'ai été formée à l'Université de Strasbourg et j'ai fait une carrière essentiellement au CEA, d'abord en recherche fondamentale avec des équipes qui travaillaient sur Saturne, au CERN, je me suis passionnée. Et puis à un moment donné, vous savez comment c'est dans la vie, on se dit à quoi je sers, que fais-je ? Et donc je me suis dit, il y a quand même un vrai sujet, on était dans les années 90, j'étais encore très jeune malgré tout, et je me suis dit je vais rejoindre la R&D nucléaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé un parcours. Alors on m'a fait passer par la stratégie, puis par le cycle du combustible, j'y connaissais rien, puis par les réacteurs, etc. J'ai suivi des formations à l'INSTN, parce que quand on est docteur en sciences physiques, vraiment la question des réacteurs et du cycle, on ne connaît pas. Et puis ensuite, j'ai rejoint le haut commissaire. J'ai fait tous les hauts commissaires qui existent quasiment. J'en ai fait énormément. Tous des grands messieurs ou même une grande dame, puisqu'on a eu Catherine Césarski. Et ça m'intéressait énormément de travailler pour eux parce que c'est l'endroit où on fait l'évaluation scientifique de ce qui se fait au CEA. Ou de ce qui se fait d'ailleurs ailleurs qu'au CEA. Pourvu que ce soit du nucléaire, ce qui fait à l'université ou dans les institutions. Voilà. Et puis, j'ai quitté le CEA, et c'est ça que je voulais vous dire. Je l'ai quitté il y a 5 ans, quand il a été décidé d'arrêter la recherche sur les réacteurs à neutrons rapides de puissance. J'ai considéré que je ne pouvais pas rester. Ce n'était pas possible. Le CEA arrêtait son cœur de métier, sa mission centrale. Donc je suis partie et j'ai repris ma liberté de parole. Pour moi, c'était très important. C'était très douloureux aussi, parce que quand on a fait ce parcours avec des gens merveilleux, des projets merveilleux, le CEA, c'était quand même le numéro 1 ou le numéro 2 selon les sujets dans le domaine de la R&D mondiale. Donc je suis partie et depuis, je tenais à ce que vous le sachiez aussi, je n'ai dépendu d'aucune institution, ni nucléaire, ni non nucléaire. J'ai été indemnisée par Pôle emploi et j'ai écrit mon livre. Donc ce livre que je vous conseille parce qu'il est intéressant, je l'ai écrit pour les non spécialistes. Il ne se compare pas au livre de Joël dont a parlé tout à l'heure Yves Fournier. C'est un livre dont le but, c'est un manifeste, comme a dit Fournier, c'est-à-dire le but, c'est de mettre à disposition du plus grand nombre, de tous les citoyens éclairés, curieux, éclairés au sens du siècle des Lumières, qui veulent être dans la rationalité et comprendre un sujet souvent présenté de façon extrêmement complexe, le nucléaire, et comprendre les atouts de cette filière, et comprendre aussi pourquoi dans ce qu'on est en train de traverser, qui ne fait que démarrer, eh bien, on ne pourra pas aller très loin sans le nucléaire. Voilà, c'était ce que je voulais dire en entrée. Pardonnez-moi, c'est peut-être un petit peu long. Mais le but, si vous voulez, c'était de sortir ce sujet du huis clos, des cabinets que je connaissais bien, des instances dirigeantes que je connaissais bien, où il y a énormément de gens incompétents. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment de l'histoire où il y a plus de gens incompétents que de gens compétents dans ces cercles. Il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Mais petit à petit, on s'est habitué, on a laissé le recrutement des médiocres recruter des médiocres. Et voilà. Et vous avez maintenant des gens qui, effectivement, ne comprennent plus le sujet. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, ce que je voudrais vous proposer ce soir, je ne vais pas expliquer le livre, je souhaite que vous le lisiez, mais ce que je voudrais vous donner, c'est trois questionnements, interrogations, qui, selon moi, participent du fait que les gens ne comprennent pas la hauteur du problème. Parce que face aux chiffres dérisoires que je vous donnais, 4%, 10%, où va-t-on ? Que fait-on ? Alors, le cadre général, le méta-cadre, c'est le cadre que vous connaissez bien du changement climatique, qui nous emmène dans des régions de fonctionnement de l'humanité à bord de la planète inconnues, incertaines. Il n'y a pratiquement que de l'incertain. La seule chose qu'on sait, il y a quelques certitudes, c'est qu'on aura besoin d'énergie. Les gens qui prétendent le contraire, bon. Rationnellement, ce qu'on sait, c'est qu'on aura besoin d'énergie et qu'on en aura besoin pour l'énergie elle-même, mais aussi pour se nourrir et pour avoir de l'eau. Sans énergie, on n'a pas d'eau. Et en termes de quantité d'énergie, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'actuellement dans le monde, on consomme 172 000 térawattheures d'énergie dans le monde. C'est ce que j'indique là, si mon pointeur, oui, il veut bien marcher. Alors, ça fait 172 millions de milliards de kilowattheures. C'est tellement énorme que ça en devient abstrait. On ne sait pas de quoi on parle vraiment. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que plus de 80%, c'est des fossiles, du pétrole, du charbon et du gaz. C'est-à-dire que ça fait du gaz carbonique, qui est l'agent principal à l'origine de la dérive climatique. Ce qui veut donc dire que ce qu'il faut faire, c'est passer... Alors, oui, ce que je dis tout de suite, pardonnez-moi, c'est qu'à l'intérieur de cette consommation globale d'énergie, la part de l'électricité, elle est là, et elle est structurellement à peu près la même, c'est-à-dire que 2/3 de l'électricité qu'on consomme dans le monde, 30 000 TWh, eh bien, c'est du fossile. Nous, on n'a pas l'habitude en France, puisqu'on a l'hydraulique et le nucléaire. Mais il faut bien voir que dans le monde entier, c'est du fossile. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est ça. C'est-à-dire un monde où on a abandonner l'idée de consommer le pétrole, le charbon et le gaz. Et qu'est-ce qui reste ? Alors actuellement, dans cette consommation d'énergie, un peu plus de 31 000 TWh sont décarbonés. On a la biomasse, 8%. Depuis que l'humanité existe, elle utilise la biomasse. C'est à peu près toujours les mêmes quantités quand vous regardez la consommation de biomasse à la surface de la Terre. Et puis, on a réussi à faire le nucléaire, comme je vous disais, 4%, l'hydraulique, 4%, l'éolien et le photovoltaïque, 3%. Donc, l'éventail de ce qui est à notre disposition, c'est ça. Et il faut arriver à faire 100%. Est-ce que c'est possible ? Et j'en viens à mon premier point d'alerte, de vigilance. J'ai même mis un triangle de danger. On confond, on laisse l'ambiguïté qu'un monde décarboné pourrait être un monde renouvelable. C'est couramment entretenu. Alors c'est vrai que le monde dont nous venons avant la révolution industrielle était renouvelable. On fonctionnait avec la biomasse, le vent et le soleil. Et puis, au début du 19e siècle, on découvre le charbon, la machine à vapeur, etc. Et la révolution industrielle décolle, et on passe à un monde carboné en 2 siècles. Vous avez une idée de combien on était à la surface de la Terre au début du 19e ? Je sais que l'histoire passionne. 1 milliard. 1 milliard. On est aujourd'hui 8 milliards et en 2050, on sera 9 milliards. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, un monde décarboné, c'est bien beau, mais est-ce que le monde du 21e siècle, décarboné, il peut être renouvelable ? Eh bien, on va regarder. Alors, je vous signale, oui, ça c'est juste pour illustrer ce qu'on trouve actuellement dans les médias, c'est que pour tout un tas de gens qui discutent, les journalistes, les politiques à des niveaux plus ou moins intéressants, c'est acquis. Les nouveaux sommets atteints par les renouvelables en 2022 annoncent le déclin des fossiles. C'est une journaliste très connue. Pour la première fois en 2023, l'éolien et le solaire fournissent 12% de l'électricité mondiale. Cette décennie, la nôtre, marque le début de la fin de l'ère fossile. Et puis, l'AIE, elle-même, l'Agence internationale de l'énergie, qui, je vous passe le début, mais l'introduction de son rapport, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre le pic de toutes les énergies fossiles avant 2030. Et on baigne là-dedans, hein. C'est que quelques exemples. Alors, il y a quand même des gens qui ont un peu plus de discernement, et vous trouvez par exemple sur c'est un think tank américain, de fait, la demande en charbon pourrait décroître à mesure que la demande en gaz naturel augmente dans la moitié des scénarios étudiés. Et là, je pense qu'on touche ce qu'il faut retenir. Et je vous le montre ici. C'est un graphe que j'aime bien faire, qui montre comment depuis 40 ans, nous consommons les ressources pour faire simplement l'électricité. On commence par le problème le plus simple, simplement l'électricité. Et en 40 ans, donc vous voyez, ici, on consomme le charbon, le gaz, le pétrole, de moins en moins. Ici, l'hydraulique. Là, le nucléaire. Et puis, depuis le début du XXIe siècle, effectivement, l'éolien qui croît, le photovoltaïque qui croît. Mais qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe aussi ? C'est que cette progression incessante, effectivement, de l'éolien et du solaire, eh ben, elle se fait au détriment du nucléaire. Donc, le gain pour le climat, c'est zéro, et elle n'entame pas le gros pavé que vous avez là de consommation des fossiles. Et de fait, ça fait 40 ans qu'on est à plus de 80% de consommation de fossiles. Alors, il y a une autre façon de voir cela, parce qu'on peut se dire, mais c'est bizarre, pourquoi cela ? Ce que je vous propose, c'est de regarder les mêmes données, mais cette fois-ci, de regarder d'abord la production d'énergie en térawattheure. Donc on retrouve à peu près nos 30 000 térawattheures de consommation d'électricité dans le monde. On retrouve les 2/3 qui sont des fossiles. Et ce qu'on a là, c'est la part du nucléaire en gros 2700 TWh, bon an, mal an, les 10% dont je parlais. Et puis on a ici l'éolien, qui effectivement c'est pas mal l'éolien, 2300 TWh. Et puis maintenant on regarde les machines qu'on a installées pour faire ça. Et on a ça. C'est-à-dire que pour faire notre nucléaire à 2700 TWh, on a 400 gigawatts de puissance installée dans le monde. En gros, 400 réacteurs, à peu près. C'est ce qu'on a actuellement dans le monde. Mais pour l'éolien, on a 1000 gigawatts pour seulement 2300 TWh. Et pour le photovoltaïque, c'est encore bien davantage, 1522 gigawatts. Et ça, certains d'entre vous le savent bien, c'est lié à ce qu'on appelle le facteur de charge, c'est-à-dire le rapport entre la puissance effective qui vous permet de récupérer l'énergie physique que vous avez vraiment et la puissance installée. Un facteur de charge qui est très petit pour l'éolien, 26% en moyenne dans le monde, tout moyenné. Pour le solaire, c'est encore pire, 12%. Et puis pour le nucléaire, 77%. Je signale aussi, parce qu'il y a des connaisseurs dans la salle, aux États-Unis, on est à 90%. On sait que le nucléaire peut aller très loin en facteur de charge, s'il n'est pas empêché. Par contre, l'éolien et le solaire, bah, ça dépend de la météo, ça dépend du soleil. Et moyenné depuis 20 ans, bah, ça donne des facteurs de charge qui sont de ce niveau-là. À ce moment-là, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire ? D'abord, vous constatez que ce n'est pas à la marge ce qui manque. Il manque l'essentiel en termes de puissance réalisée. C'est 75%, 80%. Donc, vous compensez avec souvent du gaz, parfois du charbon. Et donc, en fait, ça vous explique pourquoi vous pouvez aller mettre de l'éolien jusqu'au plafond et même encore davantage, vous allez continuer de fonctionner avec du charbon et du gaz. Et donc, en fait, les renouvelables qui sont sur la palette des énergies à notre disposition pour cette décarbonation urgente, eh bien, en fait, nous laissent liés aux fossiles. On n'en échappe pas. Sauf, et ça rejoint mon premier warning, sauf à imaginer qu'on accepte que ben, les trains ne fonctionnent pas quand il n'y a pas de vent, que les hôpitaux s'arrêtent, les sialytiques s'arrêtent quand il n'y a pas de vent, et puis que tout repart quand il y a du vent. L'université ne fonctionne pas quand il n'y a pas de vent. Et donc on revient à un monde effectivement de renouvelables, décarbonés, mais ce n'est pas le monde dans lequel on vit. Donc ça, c'est le premier point. Je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas bien, ça c'est un profil physique de fourniture d'électricité dans la baie de Saint-Nazaire. Là, le facteur de charge, c'est 32%, parce qu'en mer, on gagne à peu près 10%. Les promoteurs annoncent des chiffres qu'on ne réalise pas. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc en fait, c'est un parc de 480 MW. Qui en fait délivre une puissance effective de 150 MW dont il faut assurer le complément. Deuxième warning, c'est la confusion entre, ça rejoint le premier, renouvelable et durable. Et désirable, parce qu'en fait finalement c'est ça. Les gens se paient de mots, je crois que c'est un peu ça l'idée. Alors que durable, ça a une définition très précise qui va plus loin que ce qu'a dit le président Yves Fournier tout à l'heure, qui est la première acception du mot. Mais durable, ça renvoie à une définition précise donnée par l'ONU en 1987. C'est l'équivalent du mot sustainable en anglais. C'est tiré du rapport Brundtland qui définit la sustainability, la durabilité, à partir de l'enjeu suivant, et durable un mode de développement qui permet aux générations actuelles d'assurer leur développement, mais tout en garantissant que les générations futures pourront aussi se développer. Alors, dit comme ça, je suis sûre que dans la salle, tout le monde connaît cette définition. Et quelque part, c'est une très très belle définition. Je précise, Brundtland, c'est le nom de Madame Brundtland, première ministre de Norvège, à qui on avait confié le rapport. L'humanité qui est capable, c'est un rapport international, de se mettre d'accord sur cette très belle phrase. Mais derrière, il y a des objectifs précis. Premièrement, économiser la ressource naturelle. Deuxièmement, minimiser la production de déchets, au premier rang desquels les gaz à effet de serre, le gaz carbonique. Et troisièmement, que les solutions soient économiquement réalistes, acceptables, accessibles au plus grand nombre et socialement acceptées. Et ça, je vous donne, amusez-vous, à chaque fois que vous trouvez le mot durable un peu partout, de vous demander si ce sens-là est derrière. Je ne sais plus tout à l'heure, parce que j'ai passé 7 heures dans les gares aujourd'hui, c'était un jour un peu particulier, mais il y avait même du café durable qui était en vente à Lyon. Je me suis demandé ce que c'était. Bon, voilà. Donc, c'est ça les objectifs de durabilité. Et à l'époque, déjà, c'est donné de façon très précise, justement, face aux défis climatiques, face aux problèmes de ressources. Et vous allez voir que c'est là que le nucléaire prend tout son sens et toute sa place. Et en particulier, et la filière rapide, parce que je sais qu'il y a dans la salle des grands experts et même des pères de la filière. Alors, pour illustrer ça, pour que vous le mémorisiez, je vous propose qu'on regarde, qu'on compare. Il n'y a rien de tel que les expériences en grandeur nature. Il y en a une qui se déroule sous nos yeux. C'est le cas de l'Allemagne, qui est le champion d'Europe des énergies renouvelables, précisément, puisque plus de la moitié du parc, c'est du renouvelable. Là, vous avez, en vert, 72 gigawatts d'éolien, 94 gigawatts de photovoltaïque. C'est pas rien. Je vous rappelle, le parc nucléaire français, c'est en gros 60 gigawatts. Et puis, le reste, pour l'essentiel, c'est des fossiles, du gaz et du charbon. Donc l'Allemagne est la championne du renouvelable. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de dire à la France de rattraper l'Allemagne. Vous avez dû entendre ça beaucoup. La France, on a actuellement 65% de nucléaire. On en a eu davantage, hein. Et puis, on a une part de renouvelables qui est importante, 29%. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est que dans ce renouvelable, on a énormément d'hydraulique, puisque la France a le troisième parc hydraulique européen. Ce n'est pas possible pour tous les pays, ça, une telle proportion d'hydraulique. Il faut avoir la géographie, hein. Donc, le premier parc, c'est la Norvège. Le deuxième parc, c'est la Suède. Et le troisième, c'est la France. Eh bien, qu'est-ce que ça donne par rapport au deuxième objectif de durabilité que sont les émissions de gaz carbonique par kilowattheure produit ? Bien, vous avez la France qui, depuis qu'elle a mis en service son parc nucléaire dans les années 70, n'a cessé de faire décroître ses émissions jusqu'à rejoindre la Suède et la Norvège, qui sont les deux champions des faibles émissions en Europe. Donc c'est vraiment le but à atteindre. Et puis l'Allemagne, qui est le mauvais élève de l'Europe, qui n'arrive absolument pas à baisser ses émissions de gaz carbonique. Et on sait pourquoi. Elle est obligée d'adosser son parc éolien et photovoltaïque à du charbon et du gaz. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que le renouvelable, c'est bien quand il est pilotable, quand il ne dépend pas de la météo ou de la présence du soleil. Et le seul renouvelable pilotable, c'est l'hydraulique. Alors, sa limitation, c'est la possibilité des sites, c'est aussi l'évolution du climat qui fait qu'il y a des épisodes de sécheresse, etc. Mais l'hydraulique, c'est un, un renouvelable extrêmement puissant et totalement pilotable. Alors, vous avez peut-être remarqué, c'était il y a exactement 15 jours, ça donne quoi du renouvelable intermittent ? Pardon. Eh bien, vous vous souvenez du troisième critère, du troisième objectif de durabilité, que les solutions soient économiquement réalistes. On a eu un épisode d'envolée des prix de l'électricité le 6 novembre, où le prix du kilowattheure a dépassé le mégawattheure, je vais le dire comme ça, 800 euros en Allemagne. En France, il était autour de 170 euros. Et ça, pourquoi ? Eh bien, parce que pendant presque trois jours, il y avait un anticyclone sur le nord de l'Europe. Il y avait, je crois qu'il y avait 150 mégawatts, que l'éolien ne fournissait que 150 mégawatts pour un parc de plus de 70 gigawatts. Le photovoltaïque, je vous montre là les profils donnés par le réseau, l'homologue de RTE en Allemagne. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'éolien. Et puis, en ce moment, le soleil, quand il est là, il n'est pas brillant. Et ça, c'était la consommation de l'Allemagne. On n'a pas arrêté la consommation de l'Allemagne à ce moment-là. Ce qu'on aurait fait dans un monde renouvelable d'avant la révolution industrielle. Mais là, il fallait bien fournir. Donc, l'Allemagne a été obligée d'importer. Je ne détaille pas toute l'histoire parce que ça nous renseigne sur plein de choses intéressantes qu'on ne décrira pas ici, mais qui montrent que c'est pas tenable. Donc, l'hydraulique, une énergie renouvelable durable. L'éolien et le photovoltaïque, des énergies renouvelables non durables. La question, c'est le nucléaire, peut-il être durable ? Et là, je précise tout de suite, être décarboné ne suffit pas. Parce que quand mon livre est paru, j'ai reçu tout un tas de choses très sympathiques, mais de gens qui étaient branchés sur la décarbonation, qui est un atout maître du nucléaire. Mais ça ne suffit pas. Rappelez-vous, la ressource, les déchets décarbonés, et puis l'économie et l'acceptabilité sociale. Alors là, on va faire un petit peu de technique. Pardon pour ceux qui êtes des physiciens nucléaires accomplis, brillants, etc., Bac plus 12 en physique nucléaire. Je vais faire de la physique nucléaire avec les mains, y compris pour les dames là qui sont au fond. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est simple. C'est important que tout le monde comprenne. Premier atout du nucléaire, c'est un potentiel énergétique considérable décarboné. Un gramme d'uranium, un gramme, là, sur le dessin, je l'ai dessiné pour que vous le voyez, mais un gramme d'uranium, ça ne se voit même pas dans le creux de ma main, il est là. C'est autant d'énergie que 2 tonnes 6 de charbon, 1 tonne 7 de pétrole et 2000 mètres cubes de gaz, qui en plus, quand vous les utilisez, font du gaz carbonique. Pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Et ça, c'est quelque chose de prodigieux. Vous avez un facteur 1 million entre ce côté-là de la balance et ce côté-là. Un gramme, une tonne. Ça vient de quoi ? Ça vient du fait que quand vous êtes ici à brûler des hydrocarbures, vous êtes dans le domaine de la chimie et des hydrocarbures, vous sollicitez des forces électromagnétiques, alors que là, quand vous êtes du côté de l'uranium, de la physique nucléaire, nucléaire c'est noyau, vous êtes du côté du noyau de l'atome, vous êtes donc au centre de l'atome, et vous sollicitez des forces nucléaires. Or, les forces nucléaires sont les forces les plus intenses qui existent dans l'univers. Il n'y a pas plus intense. C'est la force la plus intense disponible dans l'univers. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, quand vous êtes capable de libérer ces forces, qui sont 10 puissance 6 fois plus intenses que la force électromagnétique, eh bien, vous avez tout de suite un facteur 1 million de gain. Oui ? Oui ? Oui. J'en sais rien, mais c'est pas grave. Ah, les deux, le charbon comme l'uranium, nécessitent d'aller dans la mine. On va parler de la ressource après. Ce sera le troisième point, parce que c'est un point important. Là, je continue juste sur l'explication, le petit cours de physique nucléaire pour les nuls. Donc, à droite, la chimie. À gauche, le nucléaire. Songez d'ailleurs la chance extraordinaire qu'on a de maîtriser cette physique nucléaire aujourd'hui, alors qu'on ne peut plus utiliser la droite, la partie hydrocarbure, la chimie de combustion. Alors, comment on libère cette force nucléaire? En fissionnant un noyau. Le noyau, je vous l'ai dit, il est entre mes doigts, là. Il est au cœur de l'atome. L'atome, il s'étend sur le parking de ce bâtiment. Hein. Le noyau, c'est vraiment la partie la plus centrale de l'atome, parce que je pense que tout le monde ici a fait de la chimie. Et donc, tout le monde connaît l'atome. L'atome, c'est ce qu'il y a de plus évident, on en voit partout. Mais les noyaux, on ne les voit pas, ils sont au centre. Ils concentrent toute la matière, toute la charge. Et pour que ce soit possible, une telle concentration, il faut qu'il y ait la force nucléaire. Et il y a des conditions dans lesquelles vous êtes capable de casser ce noyau. La petite particule bleue qui arrive, je ne sais pas si on voit qu'elle est bleue sur le dessin, c'est un neutron. Un neutron, c'est une particule encore plus petite que le noyau, mais qui est neutre. L'avantage, c'est comme elle est neutre, elle fonce comme un bourrin sur le noyau, elle ne voit pas du tout le champ électromagnétique, et si les conditions sont bonnes, elle le casse. Quand le noyau est cassé, il libère la force nucléaire et on récupère 200 millions d'électronvolts à chaque fission. Alors que quand on brûle des hydrocarbures, à chaque fois qu'on brûle une molécule, on récupère des électronvolts. Donc vous voyez, on retrouve le million. On retrouve à chaque fois ce million. Et en plus, la fission libère 2 ou 3 neutrons. Et l'un des neutrons va aller sur le noyau d'à côté et le fissionner. Et l'un est, qui va ensuite émettre des neutrons, et le neutron d'à côté va aller voir le noyau d'à côté, etc., etc. C'est la réaction en chaîne. C'est ce qu'on découvre et ce qu'on comprend en 1938-1939. C'est l'histoire française, européenne et bientôt américaine, puisque les grands physiciens de l'époque vont migrer aux États-Unis. Alors, quel est le noyau qui se laisse fissionner? Quels sont les noyaux qui se laissent fissionner? Pardon. Ben, il n'y en a qu'un. L'uranium-235. C'est le seul. C'est le seul noyau sur Terre qui se laisse fissionner. Le problème, vous voyez, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. 0,7% dans l'uranium. Très, très peu. En fait, à l'origine de la formation de l'univers, il y a eu beaucoup de noyaux fissiles. Mais leur période radioactive était telle qu'ils ont disparu de la surface de la Terre. Par contre, l'uranium-235, il a une période de 700 millions d'années. Ça veut dire quoi, une période de 700 millions d'années? Ça veut dire que toutes les 700 millions d'années, la moitié des noyaux ont disparu. Ça veut dire que depuis que la Terre est Terre, c'est 4,7 milliards d'années, ben, il en reste un petit peu. Des fifres là. Le souci, c'est que donc, nos réacteurs ils fonctionnent avec cet uranium-235, comme vous savez. En France, dans le monde entier, les 400 réacteurs fonctionnent avec l'uranium-235. Le problème, c'est donc ça, c'est que l'uranium de la croûte terrestre, c'est de l'uranium-238. Or, l'uranium-238, ils se laissent pas fissionner comme ça. Et là, je termine mon petit cours de physique nucléaire accélérée. Pourquoi ? Et ça, c'est Bohr qui l'a compris. L'uranium-238, en fait, intuitivement, vous le comprenez, 238, c'est pair. Ça donne une symétrie intrinsèque au noyau. Ça lui donne une cohésion. Si vous voulez, tous les nucléons à l'intérieur du noyau sont liés de la même façon. Ils sont tous égaux à l'intérieur. Il y a une parité qui assure une cohésion maximale. Et pour arriver, en fait, à fissionner cet uranium-238, il faut amener des neutrons rapides, des neutrons très énergiques. Là, ici, vous avez des neutrons, la vitesse est l'ordre du kilomètre par seconde. Là, vous avez 20 000 kilomètres par seconde. Parce que ça apporte au noyau une énergie suffisante pour passer la barrière de fission, qui est beaucoup plus haute ici, elle est de 7 MeV, que dans l'uranium-235, où même un neutron qui arriverait au repos, quasiment, arriverait à fissionner l'uranium-235. Et ça, les physiciens l'ont compris très vite, dès le démarrage de l'histoire nucléaire. Ça, c'est la figure que vous connaissez bien pour ceux qui sont du domaine, que Bohr a publiée, je crois qu'elle a été publiée en 1945 dans un Nuclear Physics, où on présente la section efficace, alors en fait, comprenez la probabilité de fission en fonction de l'énergie incidente des neutrons. Et vous voyez que l'uranium-235, eh bien, il a une probabilité de fission très grande dès lors que le neutron est lent. Elle est même maximale si le neutron est au repos. Alors que vous voyez également que l'uranium... Alors donc, on a donc tout à fait naturellement démarré l'aventure électronucléaire avec l'uranium-235. On était sûr d'avoir de la fission, une réaction en chaîne auto-entretenue. Ça marchait. C'est comme ça qu'on est parti. Mais dans la même, au même moment, on a mesuré la section efficace, la probabilité de fission de l'uranium-238 qui est présenté là en bleu, et vous voyez qu'il faut atteindre des énergies incidentes de neutrons beaucoup plus importantes, 2 MeV, pour arriver à fissionner l'uranium-238, qui d'ailleurs, même comme ça, ne se laisse pas fissionner si facilement. Il n'y a que 30% de l'uranium-238 qui va fissionner. Quand l'uranium ne fissionne pas, qu'est-ce qui se passe ? Il fait ce qu'il aime le plus faire, il capture le neutron. Ça, c'est un truc que font tous les gros noyaux. C'est leur mode de rencontre préféré avec le neutron. Et en capturant un neutron, le 238 devient 239 et se réarrange. Et en se réarrangeant, il se transforme, on appelle ça transmute, et il devient... on va le voir, un plutonium-239. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire parce que le plutonium-239, maintenant vous savez, puisqu'il est impair, qui va fissionner exactement comme l'uranium-235. C'est-à-dire que dans un réacteur avec des neutrons rapides, non seulement vous allez pouvoir utiliser tout l'uranium naturel, mais en plus, quand ça ne marche pas, et ça ne marche pas les deux tiers du temps, vous fabriquez de la matière fissile. C'est ce qui fait que si vous pilotez correctement votre réacteur à neutrons rapides, ben en fait, vous allez fabriquer plus de matière fissile que vous n'allez faire de fission. Pourquoi cela ? Parce que, bon, là, je rentre un peu dans un détail, je ne m'étends pas plus. Mais lorsque vous fissionnez avec des neutrons rapides, non seulement vous êtes extrêmement performant sur la fission, mais en plus, vous récupérez à chaque fois 3 neutrons. Alors qu'avec des neutrons lents, vous n'avez que 2 neutrons. Donc ici, vous avez toujours un neutron pour faire la réaction en chaîne et en plus un neutron pour transmuter l'uranium-238. C'est pour ça qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides des surgénérateurs. Alors, il y a des gens qui disent « Oh là là, c'est très vilain, vous êtes avec du plutonium, etc. etc. » Ça, c'est un plutonium qui est en réacteur, qui est géré, contrairement à ce qui se passe dans les réacteurs à neutrons lents. Dans les réacteurs à neutrons lents, ben, votre réacteur, il est optimisé pour fissionner l'uranium-235. Le reste, il ne peut pas. Il ne sait pas faire. Et donc, à chaque fois qu'un uranium-235 n'est pas fissionné, eh bien, il y a une capture qui est faite, là aussi. C'est des gros noyaux qui sont faits et qui restent gros noyaux. Donc, vous fabriquez du plutonium, du neptunium, du californium, du curium. C'est ce qu'on appelle les transuraniens, ou on les appelle aussi, les chimistes aiment le terme actinide. Et c'est ce qu'on met dans les déchets. Voilà. La problématique des déchets, elle vient en fait parce qu'on n'a pas la bonne technologie. Et les gens qui sont ingénieurs dans cette salle, quel que soit le domaine, même non nucléaire, vous savez bien que quand vous n'avez pas le bon process de fabrication, vous faites du déchet que vous ne feriez pas si vous aviez le bon process de fabrication. Et donc, depuis le début, les physiciens savent que le nucléaire de la maturité, c'est le réacteur à neutrons rapides. Alors, d'ailleurs, là je vous montre cette photo que j'aime beaucoup, c'est une photo d'archive, c'est la photo que vous connaissez sûrement, du premier réacteur qui a permis d'allumer 4 ampoules de 200 watts en 1951. Ben, en fait, c'était un réacteur à neutrons rapides. Fermi voulait vérifier que ça marche. Et quelques semaines plus tard, c'est tout le laboratoire qui était alimenté par ce réacteur. Et Fermi a écrit cette phrase que vous connaissez sûrement, hein, le pays qui, le premier, maîtrisera la fission avec des rapides, eh bien, aura un avantage considérable sur les autres pays. Alors, breeder, ça veut dire, en fait, surgénérateur, pour aller vite, hein, ça veut dire qu'en plus, on transmute en même temps, on fait de la fission et on transmute, on fabrique de la matière fissile. Alors, voilà, là, je rejoins l'histoire devant de grands devanciers. Immédiatement à ce début de l'histoire, donc, vous voyez un peu le raccourci. La recherche fondamentale, Bohr, Joliot-Curie, Meitner, etc., c'est 1838, 39, 40, etc. Et dans les années 50, 10 ans après, on démarre la mise au point de réacteurs à neutrons rapides. Les États-Unis de leur côté, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la France, les 4 grands pays de l'histoire nucléaire à ses débuts, avec en France Rhapsody, d'abord 20 mégawatts thermiques, puis 40 mégawatts thermiques, premier réacteur expérimental en France, qui démarrera d'ailleurs avant celui du Royaume-Uni, je crois. Et puis, dans la foulée, Phoenix, 250 mégawatts électriques, cette fois-ci, qu'on coupe au réseau, qui est un réacteur à neutrons rapides, refroidi au sodium, qui va fonctionner plus de 35 ans. Et puis, Super Phoenix, 1200 mégawatts électriques, le premier réacteur de puissance, de cette puissance-là au monde, une collaboration France-Italie-Allemagne, qui démarre en 86. Dès le moment où ce réacteur a été mis sur la planche à dessin, il a été la cible des antinucléaires. Tout de suite, ça a démarré quart de tour. Et en 97, je mets 97 parce que c'est le moment où la décision a été prise, même si le décret c'est 98, la décision est prise d'arrêter Super Phoenix. Et c'est une décision politique, purement politique. À l'époque, le PS, avec Jospin qui allait devenir Premier ministre, conclut un accord avec les écologistes pour gagner les élections. Et le prix de l'accord, le plat de lentilles, c'est Super Phoenix. Et l'arrêt de Super Phoenix, au-delà du fait que pour les équipes, qu'elles soient du côté de la recherche, de la R&D ou du côté de l'exploitation, de l'industrie, etc., ça a été évidemment une tragédie, mais pour la cohérence de la filière, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, on sait très bien que pour être cohérent dans le développement de cette filière, il faut ce type d'outils et on arrête. Et à partir de là, là, vous remarquez, on est à la fin du XXe siècle. Et là, ça va être d'ailleurs la montée en puissance, ça avait déjà démarré avant, mais de tous les mots MOTS et MAUX pour dire le problème du nucléaire, c'est ses déchets. Ah ben oui, la bonne blague, on n'a plus l'outil pour traiter correctement les choses, on fabrique des déchets. Donc, au début du XXIe siècle, c'est ça, une loi est votée, parce qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent, c'est la loi du 28 juin 2006, qui est votée, qui est une loi de programmation de la recherche. C'est des lois assez rares qui portent sur la gestion des matières et des déchets radioactifs. Matière étant entendue au sens de matière stratégique. Les parlementaires qui, dans les années 70, écrivaient « Il faut que la France, le moment venu pour eux, c'était 1985, soit prêt à démarrer une filière rapide pour assurer sa souveraineté, le plutonium étant vu comme de l'or, une opportunité pour le pays qui n'a pas de ressources. Cette loi prescrit au CEA de redémarrer les recherches de sorte à ce qu'en 2020, on puisse démarrer un prototype de quatrième génération de réacteur à neutrons rapides, prototype de puissance. Pardon. Je pense que j'ai pris froid sur les quais glacés. Et là, alors vous voyez, la loi, c'est 2006. Vous voyez, j'ai mis 2010 ici. Pourquoi 2010? Parce qu'en fait, le financement ne va arriver qu'en 2010. En fait, l'état de sidération dans les équipes est tel que j'ai même entendu des directeurs dire écoutez, on attend le contre-ordre. Tellement chat échaudé craint l'eau froide. Et en 2010, un financement exceptionnel arrive, Astrid démarre. Et puis, devinez quoi? En 2019, on arrête Astrid pour raison politique. Alors, à travers mes fonctions au cabinet du haut-commissaire, etc., bon, voilà, j'ai vu des choses consternantes. Je ne peux pas forcément les dire là, mais j'en dis un peu dans mon livre, pas tellement, parce que voilà, tout ça, vous comprenez, est compliqué. J'en dirai plus dans le livre prochain qu'il faudra acheter et lire. Mais pour vous donner une idée, dans les années 2010, j'ai accompagné les membres de la commission qui évaluaient la recherche faite dans le cadre de cette loi. Je les ai accompagnés à Berlin. Et on a rencontré les députés verts allemands, les Greens, qui nous ont dit « Vous, les Français, avec Astrid, vous avez raison. » Les verts allemands. Hein. Mais nous, on ne le dira pas, parce que ça rendrait le nucléaire durable. Et oui. Donc, j'ai mis ici sur ce transparent le nucléaire durable, un fiasco français. Ça paraît vraiment... Alors qu'on a été parmi vraiment les meilleurs au monde pour rester modeste sur ce sujet. Et c'est mon troisième warning qui, à mon avis, est un peu l'éléphant au milieu du salon. Je vous le dis comme ça parce que j'ai récemment été auditionnée par des sénateurs à huis clos sur cette question de la ressource. Parce que ceux qui ont suivi les auditions de grands dirigeants de la filière au Parlement ou au Sénat ont sans doute entendu des choses assez étonnantes sur la question de la ressource. La ressource qui est le premier objectif de la durabilité, économiser la ressource. Les sénateurs, les parlementaires voulaient savoir, au fait, en uranium, on en est où? Et on leur a répondu, tout va très bien, le siècle prochain, on verra. Alors, on verra quoi exactement le siècle prochain? Ça va être ma dernière courbe, et après j'aurai quasiment terminé. J'ai eu beaucoup de mal à la construire, pourquoi? Parce qu'on trouve énormément de papiers qui discute de l'existence, la possibilité de l'uranium en fonction de son prix. Et c'est un travers qu'on a en permanence, on discute de savoir à quel moment on n'achètera plus éventuellement de l'uranium parce qu'il sera devenu trop cher, etc. La première question, c'est est-ce qu'il y en a ? Et donc j'ai compilé 25 Red Books qui sont publiés tous les deux ans par l'AIEA pour et ça renseigne sur la base déclarative d'environ 57-60 pays les quantités que ces pays estiment avoir sur leur sol en uranium. Donc j'ai enlevé tout ce qui était des parties économiques, je me suis fait aider de copains plutôt orientés géologie, et on arrive à cette barre en rouge là que j'ai, qui est la limite de ce qu'on appelle les ressources identifiées. C'est des ressources, on sait qu'elles existent en uranium. C'est sur cette disponibilité, je dirais, de l'uranium que fonctionnent actuellement 131 mines dans le monde d'exploitation de l'uranium. J'ai mis une certaine barre d'erreur parce que certaines mines sont obligées de fermer, certaines mines ont des problèmes. Tous les pays ne déclarent pas exactement. Il y a des pays qui déclarent qu'ils ont quand ils n'ont pas, parce que c'est pour des raisons géopolitiques et autres. Donc il faut mettre des barres d'erreur. Mais en recoupant avec des données de géologues qui n'interfèrent pas avec les enjeux nucléaires, on tombe sur 8 millions de tonnes, plus ou moins 25%, de ressources identifiées. Et puis, on a une nébuleuse autour de 15 millions de tonnes qui sont des réserves ultimes. Alors là, il y a des gens qui disent des réserves hypothétiques. C'est des endroits à la surface du globe où on pense qu'on peut trouver de l'uranium parce que c'est des endroits analogues aux endroits où on en a trouvé. Mais on n'est absolument pas sûr qu'on n'a pas cherché. On n'est pas sûr qu'on sera capable, on aura les ressources énergétiques pour aller les chercher et que le bilan énergétique de cette recherche sera positif. Voilà. Donc, dans un rapport remis par le département de géologie fédéral à Barack Obama en 2012, qui retombe à peu près sur ces ordres de grandeur, donc l'auteur du rapport, les auteurs écrivent que dans cette région-là, assez mal définie, il serait très hasardeux de bâtir une stratégie nucléaire pour les États-Unis. Voilà. Nous, en France, on a actuellement des organismes qui se préoccupent apparemment pas de ça. Hein. Enfin, j'en dirai pas plus. Alors, oui, le BRGM. Ouais, exactement. Exactement. Alors, la courbe qui est une droite que je vous montre là, c'est comment on consomme cet uranium aujourd'hui avec les 400 réacteurs qui sont à la surface de la Terre pour faire les 400 gigawatts de puissance nucléaire dans le monde. On consomme 60 000 tonnes chaque année. Ça donne ça. Donc vous voyez que dans la décennie 2080, on commence à rentrer dans le plafond. Hein, d'accord ? Donc déjà, les grands dirigeants CEA Orano qui ont répondu que tout va très bien, bon, c'est déjà questionnant. Et puis là, j'ai tracé la courbe plus réaliste. L'AIEA nous dit actuellement il y a 57 réacteurs en construction dans le monde. Il y en a 120 en projet avéré, des vrais projets qui vont démarrer. Donc l'AIEA dit en 2050, il y aura en gros 50% de puissance nucléaire dans le monde en plus. Ça donne cette consommation. Et là, vous voyez que en 2070, ça va se tendre. Je précise que dans les comptes rendus de l'AIEA, la Chine ne donne jamais ses données. Donc c'est hors données de la Chine qui avance à toute vapeur sur le nucléaire. Et puis, vous vous souvenez qu'à la COP 28, donc c'est la COP de l'an dernier, 22 pays, dont la France, se sont engagés à tripler la puissance nucléaire sur Terre. Alors, au passage, petite parenthèse, si ça se fait, c'est un bel effort, c'est bien. Pour arriver, j'ai regardé, pour arriver à décarboner la fourniture d'électricité dans le monde, il faudrait en fait quintupler la puissance actuelle. Bon, mais déjà tripler, pourquoi pas ? Saluons l'effort. Là encore, dans l'effort, la Chine ni l'Inde ne figurent. Et ça donne ça. 2050, on est déjà en difficulté. Il n'y a pas la Chine dans la courbe. Même si l'engagement des 22 pays ne se réalise pas, on sera entre les deux courbes supérieures. Ça veut dire qu'à partir de 2050, quel est l'industriel qui va dire « je démarre un EPR » Un EPR qui est censé fonctionner 60 ans et qui va fonctionner les deux tiers de son temps en insécurité sur son approvisionnement en uranium. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur ce critère de la ressource, qui est le critère numéro un de la durabilité, le nucléaire sans les rapides est condamné à s'arrêter. Est condamné à s'arrêter parce que quand on n'aura plus d'uranium-235, on fait quoi ? C'est le seul noyau fissile sur Terre. Ben, la fission s'arrête. C'est aussi simple que ça. L'eau de mer, c'est des milliards de mètres cubes disponibles, avec de l'uranium en quantité conséquente, avec 40 années de recherche, essentiellement d'ailleurs en Chine, pour arriver à trouver un système qui soit positif en énergie pour récupérer cet uranium-235. Alors, mon avis de citoyenne et de scientifique aussi, c'est que c'est scandaleux d'aller essorer l'eau de mer pour faire ça, alors qu'on sait faire des rapides, alors qu'on a de l'uranium-238. Mais en plus, ça ne marche pas. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et tant mieux. Je dis tant mieux. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est d'autant plus... Attendez. Je termine pour que vous... Après, je vais libérer la parole parce que j'ai beaucoup parlé. Mais je suis venue pour ça aussi. Hein. Il fallait s'y attendre. Hein. C'est d'autant plus râlant qu'en France, on a 450 000 tonnes de matière fissible énergétique sur le territoire. J'ai sommé tout l'uranium-238, tout le plutonium. 450 000 tonnes. Vous faites une règle de 3 avec un nombre d'Avogadro qui se trimballe quelque part, ça fait 7000 années de production d'électricité en France. Ça veut dire qu'on pourrait être un château d'eau énergétique pour l'Europe, alors que l'Europe est en sérieuse difficulté énergétique, qu'elle a passé son pic de gaz. Et puis, de toute façon, c'est très bien, puisque il faut abandonner les fossiles. Donc, le nucléaire durable, derrière la question du nucléaire durable, il y a cet enjeu-là. Le nucléaire, pour 50 ans encore, grand maximum, en raclant tous les fonds de tiroir, ou bien 5000 ans. Bon, j'ai pas le temps de... Ça, c'était un truc que j'avais préparé pour les parlementaires, pour leur expliquer qu'on leur raconte des bobards actuellement en leur disant qu'on recycle, etc. On recycle 12% de 1% des 0,7% qu'on utilise dans la croûte terrestre. Enfin, c'est baratin, bullshit. Alors que dans un réacteur à neutrons rapides, eh bien, on va utiliser la totalité de la matière. Et on a montré que ça marchait. On a recyclé du combustible de Phénix qu'on a balancé dans les cuves de la Hague. On a refabriqué du combustible et on a refait de l'électricité. Je vous montre aussi rapidement, parce que l'administrateur général du CEA actuel dit que le CEA n'a rien fait dans le domaine du cycle du combustible, cette fameuse courbe publiée en 2012 par les équipes du CEA qui montre la question des déchets, les déchets dont l'évolution est très lente en raison de leur période radioactive dans le cas des REP et des EPR qui vous emmènent jusqu'à 100 000 ans. Bon, techniquement, l'ingénieur sait faire, le scientifique sait faire, mais on voit bien que c'est quand même pas satisfaisant. Alors qu'avec un rapide, au bout de quelques siècles, vous retournez à la radiotoxicité de l'uranium naturel. Tout ça parce que les transuraniens sont dans le processus de fission. Et donc, vous ne gardez que les vraies cendres du processus, les produits de fission. Et ça change totalement la réalité temporelle. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que la radioprotection auprès d'un réacteur à neutrons rapides est beaucoup plus favorable pour les exploitants qu'auprès d'un REP. Les données sont assez remarquables. Je vous montre, pour terminer, juste avant mon transparent de conclusion promis, quelque chose que je montre maintenant uniquement à la fin de mes baratins, c'est la question de l'acceptabilité sociale du nucléaire. Ça, c'est la compilation faite par l'OMS avec l'UNSCER des données de mortalité en fonction des sources d'énergie. Là, vous avez le charbon, donc c'est normalisé par térawattheure, environ 30, un taux de mortalité de 30. Le pétrole, 20. La biomasse, 5. Le gaz, 3. L'hydraulique, 1. Même en comptant les grands accidents, hein, c'est de l'épidémiologie, les accidents de barrage, etc. Et puis, l'éolien, le nucléaire, le solaire, c'est un facteur 100 en dessous du plus petit. C'est peanuts. Si vous multipliez ces histos avec les quantités par térawattheure que je vous ai montrées tout à l'heure, actuellement, les fossiles, c'est plus de 6 millions de morts dans le monde chaque année et c'est presque 250 000 morts chaque année en Europe. Voilà, donc s'il fallait une raison supplémentaire pour le nucléaire, quand les gens commencent à comprendre ça et que c'est la réalité scientifique, technique, c'est pas du blabla de commerce ou de journaliste. Donc l'enjeu d'un monde durable, si vous vous souvenez de ce que j'ai présenté au début, dans ce contexte-là, dans cette réflexion-là, le nucléaire durable n'est pas une option parmi d'autres. On entend parfois par des gens qui se disent « je vais témoigner de mon ouverture d'esprit, le nucléaire est une solution parmi d'autres ». Non, c'est la solution parce que, rappelez-vous, de quoi on dispose vraiment? L'hydraulique, on sera limité. L'éolien et le photovoltaïque, ça nous aliène aux fossiles. Quoi qu'on fasse, il reste le nucléaire. À condition de le faire correctement. C'est-à-dire avec des rapides. Je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup. Comme je connais le sujet, j'apprécie la qualité, la concision de la démonstration qui vous a été faite. Donc, je n'en dirai pas plus. C'est le moment de poser des questions.
Donc, la France a arrêté il y a 5 ans ses recherches sur les neutrons rapides. Quels sont les pays qui font actuellement des recherches? Puis, une deuxième question qui est liée à la première, pour quelles raisons? Qui a décidé, quels ont été les facteurs d'influence d'arrêter il y a 5 ans?
Alors, sur la filière rapide, en fait, je me souviens, en 2012, je crois, on est allé visiter les Chinois. On leur a demandé où ils étaient dans leur recherche sur les rapides. J'espère que je ne parle pas trop fort. Et ils nous ont baladés dans tout un tas d'installations, comme font les Chinois. Ils nous ont dit que là... il y avait un hublot par terre, dessous ils avaient un réacteur en préparation. Et en fait, actuellement, Donc en 2024, il y a un réacteur de, je crois, 600 MW qui est couplé au réseau, rapide. Il y en a un autre qui est en construction. Donc je crois même qu'il y en a deux en construction. L'Inde vient de procéder au chargement de son premier réacteur, équivalent à Phoenix. L'Inde, vous vous rendez compte? Ouais. Ouais. Ben les textes de Vendriès, il en parle. La Russie n'a jamais arrêté et est en train de passer à la surgénération. Donc ils ont deux réacteurs à neutrons rapides. Ils sont en train d'en étudier un troisième. Ils passeraient à la surgénération. Les Japonais qu'on a abandonnés, qui étaient nos partenaires sur Astrid. Je me souviens quand Abe a été élu, il avait dit la filière rapide, on travaillera avec la France. Le Japon était le pays qui avait la stratégie globale la plus proche de la stratégie française. Ils ont aucune ressource. Quand on les a abandonnés avec l'arrêt d'Astrid, ça a été... D'ailleurs, d'autres marchés nous ont échappé à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'affaire des sous-marins, etc. Enfin, on a été... discrédité et disqualifié. Je vous invite, si vous avez un peu de curiosité, à aller voir le rapport d'enquête qui a succédé à l'arrêt d'Astrid, parce qu'effectivement, les parlementaires, les sénateurs, se sont offusqués que cet arrêt d'Astrid se fasse hors la loi. La loi prescrivait ce réacteur. Le financement exceptionnel avait été voté, etc. Alors maintenant, on trouve tout un tas de raisons du bidon, du baratin. La réalité, c'est que l'administrateur général qui a été nommé pour arrêter Astrid, parce qu'il était d'accord pour l'arrêter, parce que, voilà, c'est quelqu'un qui, d'abord, n'y connaît rien, et puis, c'est grave, très grave. C'est très grave qu'un pays comme la France... qui a une histoire scientifique et industrielle de premier plan dans un domaine, on n'a pas tant de domaines que ça, le nucléaire. On est finalement, le CEA, c'est la tête chercheuse de la filière. Ben, on l'a arrêté. Voilà.
Bien sûr. Oui, je voulais que vous nous parliez un petit peu de la filière thorium qui pourrait être aussi une solution pour rendre le nucléaire durable.
Alors.
Et qui n'est pas tellement exploré.
Le thorium, comme vous savez, c'est effectivement une matière fabuleuse. Il y en a bien plus que l'uranium à la surface de la Terre. Il y a un seul isotope, le thorium-232. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que ça se comporte exactement comme l'uranium-238. Ça veut dire que si vous voulez utiliser le thorium, il vous faut des rapides de façon efficace. D'accord? Donc, c'est, en ce qui concerne l'outil technologique, c'est le même. Et j'ajouterai en complément que le thorium, la France n'en a pas. Elle a de l'uranium-238. On a, je crois, 70 000 tonnes, peut-être même pas tant, de thorium du côté de La Rochelle lié à c'est des usines de fabrication de plâtre, etc., qui ont accumulé du thorium. Mais le thorium, il y en a en Inde, il y en a en Chine. Il faut laisser le thorium à ces pays-là. C'est pas une alternative. J'ai un transparent derrière celui-là. J'en parle dans mon bouquin. J'appelle ça les fausses bonnes idées. Le thorium. L'uranium de l'eau de mer. L'enrichissement de l'uranium appauvri, la fusion. Je vais commenter un tout petit peu. C'est un peu provocateur, mais si vous voulez, le problème, c'est que face aux politiques qui ne décident rien, si en plus vous lui dites qu'il y a des alternatives, alors là, il ne fait rien. Et vous lui présentez des alternatives qui, en fait, ne règlent rien, n'apportent rien. Le thorium, je vous dis, thorium-232, seul isotope. Donc c'est même comportement que l'uranium-238. Donc pour l'utiliser, il faut des rapides. Donc voilà. Hein. C'est une bonne idée, mais ce n'est pas une idée pour la France, ni pour l'Europe. C'est une idée pour la Chine et l'Inde. Et je pense qu'ils y pensent. Ils n'ont pas besoin de nous. L'uranium de l'eau de mer, je vous ai répondu. Hein. C'était vous qui aviez posé la question. Toutes les idées iconoclastes, c'est vous. Donc, d'ailleurs, vous avez une écharpe rouge. Donc, voilà. Et ben, c'est bien. Ça me permet de défiler des transparents que j'aurais pas le temps sinon de montrer. Donc, l'uranium de l'eau de mer, c'est, enfin, pour des questions d'environnement, pour des questions des. Oh, ben, alors là, j'en. Non, mais vous vous rendez compte d'aller essorer, éponger l'eau avec des usines qui vont, excusez-moi, je vais parler en vieux français, dégueulasser l'environnement marin. Mais, et je vous dis en plus, il n'y a pas de procédé qui existe qui soit à énergie positive. Ça fait 40 ans que les recherches se font en Chine, justement. L'enrichissement de l'uranium appauvri. Alors j'ai vu traîner ça, d'ailleurs Orano se vante de ça en disant... On va, c'est comme ça qu'ils arrivent d'ailleurs, oui. Ils ont expliqué aux sénateurs qu'il leur fallait de l'argent pour déployer des usines, etc. On a fait les calculs, on les a vérifiés ensemble, Dominique Grenache et moi. Si on, l'uranium appauvri, c'est donc l'uranium qui reste. Vous prenez 5 tonnes d'uranium naturel et vous en faites 1 tonne d'uranium enrichi pour mettre en réacteur. Parce que les 0,7%, là c'est pour le nucléaire pour les nuls, hein, les 0,7% d'uranium-235 qui sont dans l'uranium naturel ne suffisent pas pour auto-entretenir la réaction en chaîne dans un réacteur. Il faut entre 3 à 4% de concentration. Donc avec 5 tonnes d'uranium naturel, on fait une tonne d'uranium enrichi à entre 3 et 5%. Ce qui reste, on appelle ça de l'uranium appauvri. En fait, c'est essentiellement de l'uranium-238, hein, soyons clairs. C'est pour ça que moi, je me refuse à dire qu'on va utiliser les déchets des REP, etc. Non, c'est de la matière énergétique, de l'uranium-238. Et dans cet uranium-238, il reste 0,2% d'uranium-235. Donc, on a fait les calculs avec toutes les centaines de milliers de tonnes d'uranium-238 dont on dispose sur le sol français, et on s'est amusé à calculer combien ça nous fait d'uranium enrichi à 3%. Et ça nous fait entre 7 et 8 années de fonctionnement. Donc vous voyez un peu le truc, il faut faire des usines qui n'existent pas, hein, et puis qui vont coûter un pognon de dingue, pour reprendre des citations bien connues, pour 7 à 8 années de fonctionnement. Non, là on est sur, je vous dis, on fonctionne encore quelques décennies et on arrête. C'est ce que souhaitent les écolos. C'est pas pour rien que les écolos sont en contre les rapides, c'est ça, contre les rapides. Et il y a un écologiste que j'apprécie parce qu'il a su se remettre en cause, c'est Brice Lalonde. Il nous a dit un jour, lors d'une conférence à Sauvons le climat, j'ai oublié dans ma présentation, je m'en souviens plus, mais je suis administrateur de Sauvons le climat et de Patrimoine nucléaire Climat France. Il nous a dit que les écologistes avaient une responsabilité considérable face au monde, parce que quand vous voyez le dernier transparent que j'ai montré, il nous reste quoi ? Le renouvelable intermittent, c'est pas viable, ça tient pas la route. Ça peut ponctuellement faire des choses, mais c'est pas à la hauteur du problème. L'hydraulique, c'est limité. C'est des puissances fabuleuses. Un barrage, c'est tout de suite 10 gigawatts. C'est tout de suite 5 ou 6 EPR. Mais quand vous avez un épisode de sécheresse, il n'y a plus rien. La biomasse, il faudra choisir entre manger ou faire de l'électricité. Il faudra d'abord manger. Et on n'est même pas sûr que tout le monde mangera. Il reste le nucléaire. Et si on ne le fait pas correctement, On arrêtera. Alors, j'en viens à la fusion. La fusion, c'est une très bonne idée, bien sûr, la fusion. Mais ce n'est pas pour maintenant. C'est peut-être même pas pour le siècle prochain. La fusion, actuellement, on fait de la recherche. Alors, il y a régulièrement des annonces. L'an dernier, il y a les Américains qui ont annoncé encore une nouvelle prouesse en fusion inertiale avec des faisceaux. Je me suis amusée à calculer ce que ça vous donnait, l'énergie qu'ils ont récupérée, sans tenir compte de l'énergie nécessaire pour alimenter les faisceaux laser. Ça faisait une plaque de chocolat. Donc on est encore très très loin, même simplement de faire de l'électricité pour les États-Unis, hein, très très loin. Non, donc on se doit, il y a un devoir. C'est pour ça que j'ai pris la parole, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, pour qu'il puisse être lu par tout le monde et surtout par les plus jeunes, parce que c'est aux plus jeunes maintenant. Enfin, ça va être votre histoire. Hein. Ça va être votre histoire, c'est vous qui allez être aux manettes. Et faire les bons choix, se poser les bonnes questions. Hein. Un monde décarboné peut-il être renouvelable? Ne pas confondre durable et renouvelable. Et puis la question de la ressource. Aucun industriel ne démarre une machine sans se préoccuper de sa matière première. Il n'y a que dans le nucléaire qu'on fait ça, hein. Enfin, avec les gens qui sont actuellement... Bon, il y a quelques patrons qui sont intéressants hein, dans la filière nucléaire. Vous êtes assez grand pour deviner lesquels, mais il y en a certains, c'est une catastrophe.
Oui, juste une petite question.
Oui.
Connaissez-vous la différence qu'il y a entre le nucléaire classique et le nucléaire à neutrons rapides pour les déchets? Quelle est la différence de production de déchets? Bon, vous l'avez montré, mais oui. C'est quoi? C'est 20-30% de différence entre les deux?
Parce que... les produits de fission, j'ai pas les ordres de grandeur comme ça en tête. D'abord, il faut avoir en tête quand même, sinon on n'est pas cohérent, que les déchets de la filière actuelle, la filière à neutrons lents, pour un centenaire qui aurait vécu d'un parc électronucléaire, ça représente une canette là, pour un centenaire. Hein. Donc, à comparer aux déchets de l'industrie chimique, les PFAS, où là, j'ai calculé, je crois que ça fait 3 ou 4 baignoires remplies de déchets PFAS, hein, que l'on consomme couramment dans l'eau, dans l'alimentation, etc. Bon. Donc là-dedans. Donc là-dedans, je ne vais pas vous dire de bêtises sur la quantité de produits de fission qui sont les seuls déchets qu'on a dans un réacteur RNR, mais je dirais que c'est, je ne sais pas, 10% peut-être, ou quelque chose comme ça, c'est très peu. Il faut bien voir que ce qui pénalise le REP, c'est que le processus dominant d'interaction entre un neutron et un noyau, c'est la capture. C'est vraiment ce qui domine. C'est ce qui a d'ailleurs surpris les physiciens en 38-39. Ils ne comprenaient pas, ils cherchaient des gros noyaux. Ils essayaient de regarder derrière l'uranium, est-ce qu'il y avait entre l'uranium et le plomb des noyaux, est-ce qu'ils arrivaient à les identifier, etc. Et c'est à un moment, il y a quelqu'un qui a dit, mais attendez, ça se trouve, on l'a cassé, le noyau. Et Bohr pensait qu'on pouvait le casser. Il pensait qu'en le déformant suffisamment, il allait se casser.
C'est Lise Meitner avec Otto Frisch qui ont démontré la réalité de Bohr. C'est pas lui qui a fait le calcul.
Il y a plusieurs. Hein, je pense que
Je raconte. Mais,
là, on rentre dans l'histoire d'une revendication.
Oui, je raconte l'histoire. Donc Otto Hahn, qui était le chimiste de l'équipe, Otto Hahn et Lise Meitner, un Allemand, et Lise Meitner, c'est une Autrichienne, et quand il y a eu l'Anschluss, elle a été obligée de s'exfiltrer en passant par la Hollande, et elle est allée, en passant par Copenhague, et elle est allée en Suède, Et en Suède, elle était avec Otto Frisch, son neveu, qui était un physicien de haut vol. Lise Meitner, c'était aussi une physicienne de haut vol. Et le calcul de la goutte liquide, là, on voit avec la petite animation qu'on vous a montrée, là, elle l'a fait sur une piste de ski. Donc, entre Noël et le jour de l'an 1938-1939, elle l'a envoyé dans une enveloppe avec un timbre à M. Niels Bohr, qui était donc à Copenhague. Qu'est-ce qu'on a été con ? Ça a été sa phrase, il l'a dit dans ses mémoires. Qu'est-ce qu'on a été con de penser qu'on ne pouvait pas faire ce phénomène-là ? Mais c'est bien sûr, il a dit ça. Voilà, mais c'est bien sûr. Et après cette andouille-là, il avait un congrès de physique nucléaire fin janvier 1939 aux États-Unis, et il a pris le bateau. Il n'y avait pas d'avion. Il a pris le bateau et il a vendu le morceau à un de ses collègues sur le bateau. Et fin janvier, ébullition aux États-Unis, on sait faire la fission. Et à l'époque, les journalistes s'intéressaient à la physique, puisque dans le New York Times, en 5 colonnes à la une, il a dit « on a trouvé une énergie fantastique » et c'est démontré. Et voilà. Bon, voilà comment l'histoire a démarré. Bien. Bon, ben écoutez.
Hein ? La Chine fait des essais, les Américains, je ne sais pas. Aussi, c'est quel type de réacteur ? C'est aussi sodium ou ils font plein d'autres choses ?
Actuellement, tous les réacteurs en construction, c'est sodium.
Sodium,
tous.
Voilà, c'est tout.
Ouais. Et les Américains font aussi des essais. Mais alors eux, ils ont beaucoup de mal à passer le cap de la surgénération parce qu'ils se sont fait intoxiquer par des scientifiques américains au moment de l'époque Carter à propos du plutonium. Ils n'avaient jamais vu un morceau de plutonium et pour eux c'était voilà. Donc ils ont cette difficulté, mais ils vont y venir. Il y a
oui.
Des questions.
Ah oui. Viens, rapproche-toi.
Je vais vous permettre une toute petite remarque. Le problème c'est pas le CO2. Le problème c'est l'excès de CO2. Parce que si vous supprimez le CO2, il n'y a plus de vie sur Terre.
Oui, mais c'est sûr. Bien non, sûr. Mais j'ai pas. Merci pour la remarque. Hein. On serait. On est à 14 degrés de moyenne mondiale grâce au CO2.
On va applaudir à nouveau Madame Claire Kerboul. Je crois qu'elle mérite bien son prénom parce qu'elle était très claire. Hein, et elle est très, très pédagogue. Et Yves Bréchet, qui est l'avant-dernier haut commissaire, il se trouve que c'est par des réseaux sociaux que j'ai invité Madame Kerboul. Et Yves Bréchet a découvert sur ses réseaux sociaux qu'elle venait ce soir à Chalon, et il a mis un petit mot en disant c'est une très bonne pédagogue, et on a pu le constater. Merci encore. Voilà. Thank you.